Bonjour Daniel Mermet, bonjour toute l'équipe. Demain, samedi 16 mai à 14h, nous invitons les festivaliers qui sont à Cannes à faire quelques kilomètres et à nous rejoindre dans la région Les Pins. Nous allons visiter le yacht de Bernie Madoff et nous proposons de le rebaptiser du joli nom de Profitation. Donc tous ceux qui sont à Cannes et sur la Côte d'Azur, rendez-vous 14h devant l'ancien hôtel Provençal à Jean-Lépin. Au revoir et bonne journée.
Oui, bonjour Daniel, depuis l'île de la Profitation. Donc c'est juste pour te signaler que le film Chomsky et compagnie sera diffusé lundi 18 à 19h à la salle Georges Tarrère de l'Orissis, organisée par le Ciné-Club de Pointe-à-Pitre ainsi que l'association Casa Jeune. Après, il y aura en fait un débat, voilà, donc depuis la Guadeloupe. Salut et à bientôt. Au revoir.
Salut Daniel, salut les OMG, on est en direct de Gap. On nous mobilise contre la loi HPST.
Vous vous souvenez de l'émission sur l'auto-entreprise, des mensonges et des arnaques que dénonçait Gérard Filoche? Dans le chapitre des impostures bien pensantes, il y a mieux, hein, beaucoup mieux. Le microcrédit. Je suis sûre que vous avez versé une petite larme il y a quelques années en entendant ces histoires merveilleuses de femmes du Bangladesh sauvées de la misère par la Grameen Bank et son fondateur, prix Nobel de la paix 2006, Mohamed Yunus. Elles n'avaient rien, on leur prête de petites sommes, elles remboursent sans faillir, bien sûr. Hein, il n'y a que les pauvres pour rembourser avec une aussi grande fiabilité. Elles s'engagent à créer une activité artisanale, commerciale ou d'élevage. Et avec leurs petits bénéfices, petit à petit, elles font vivre leur famille. Ça, c'était le compte. La réalité, c'est que les banques de microcrédit, qui sont aujourd'hui des milliers, prêtent à un taux, écoutez bien, de 20 à 30%. La réalité, c'est que pour rembourser, elles s'endettent auprès d'autres banques, ces femmes, jusqu'à se mettre 3, 4, 5 crédits sur le dos. Et quand elles ne peuvent plus rembourser, eh bien, elles se donnent la mort avec leur mari de préférence, puisque le contrat stipule que le survivant hérite de la dette. J'avoue que quand j'ai su que Jacques Attali participait aux banques des pauvres avec Planète Finance, je me suis méfiée, bien sûr. Mais je ne pensais pas découvrir une situation et un cynisme aussi abject que celui de ces institutions. Je vous salue. Bonne journée quand même. C'était Anne du Morbihan.
Là, vraiment, je trouve que vous exagérez. Hein. Comme disait Orwell, en ces temps d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Or, il est gentil, notre président. Il vient de nous écrire à nous, les 400 000 vieux et pauvres, pour nous annoncer l'augmentation de notre misérable retraite. Elle passe de 633 à 677 euros. Mais à quelques jours des élections, moi, j'ai un doute. Ça ne s'appellerait pas du racolage électoral, par hasard?
Ouais, salut Daniel, salut tout le monde. Ben voilà, qu'est-ce que je viens d'apprendre, qu'une quarantaine de personnes d'EDF, GDF ont été arrêtées par les forces de l'ordre. Voilà, toujours des syndicalistes, des manifestants. Ben, c'est un peu comme moi le 1er mai avec quelques copains à Grenoble. Bon, nous on a un peu morflé, quoi, on a pris quelques coups. Mais bon, qu'est-ce qu'on attend maintenant pour s'y mettre tous ensemble là, parce que ça va plus, quoi. Il faut arrêter d'accepter l'intolérable. Voilà, alors si Thibault, Chirec et compagnie, ils n'arrivent pas à lancer les troupes, on peut partir nous-mêmes. Hein. Pour que tout le monde se lève et se soulève maintenant. Et se mette en marche. Ciao.
Merci pour tous ces messages, chers AMG. Messages qui me parviennent dans un lieu très 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 particulier, qui est la chambre 304 de l'hôtel Copacabana à La Paz, en Bolivie. Et cette chambre a ceci de particulier qu'en novembre 1966, un certain Ramon y séjourna. Ce Ramon n'était autre que Che Guevara. Il était déguisé, il portait des grosses lunettes, il avait tout un attirail pour passer inaperçu, et il avait devant lui une petite année à vivre. Il est mort, il faut le rappeler, en Bolivie, à La Higuera, le 9 octobre 1967. Et je suis dans cette chambre où il résida en novembre 1966. Et le Che, qui aimait la photo, comme vous le savez peut-être, eh bien, s'est photographié de lui-même dans un miroir qui est juste devant moi. Voilà, dans cette chambre. Ce qui est assez curieux, c'est que les guides ont l'air d'ignorer cette chambre et que dans cet hôtel, on n'est pas plus intéressé que ça de valoriser ce lieu historique. Le Che, ce jour-là, imaginait-il, le Che alias Ramon, imaginait-il que 43 ans plus tard, à quelques mètres d'où se trouve cet hôtel, il y aurait un musée consacré à Che Guevara. Le Che est devenu une figure, la figure du Christ, puisque même les étudiants d'extrême droite en Bolivie ont le Che pour symbole. Et un peu plus bas, il y a l'université de La Paz, et en 1997, lorsque j'étais venu pour la première fois ici, il y avait une immense peinture représentant le Che avec une phrase du genre « Tout ce que nous avons fait, tout ce que nous faisons, c'est contre l'impérialisme ». Et au-dessus de cette grande peinture murale, il y avait une énorme publicité pour Coca-Cola. Cette publicité a disparu, la Bolivie a tourné une page qui est la page du néolibéralisme. Ici, en Bolivie, on évoque la dictature, souvent il y a eu des 14 ans de dictature, mais le néolibéralisme est au même niveau dans la mémoire, le même niveau de rejet et d'années sombres et d'années noires, et ce qui illustre ça, c'est la mémoire de ce qu'on appelle ici la guerre du gaz, qui, en octobre 2003, au-dessus de La Paz, à El Alto, a fait 67 morts. Le président Goni avait envoyé les chars et l'armée tirer dans le peuple. Et ça, c'est une mémoire très vive, très, très forte pour les habitants, non seulement de La Paz, mais de toute la Bolivie. Et évidemment, ça allait préparer l'élection 2005 d'Evo Morales. Voilà où nous en sommes de ce voyage. Baba Sissi aujourd'hui se consacre entièrement à Fakir, le journal de François Ruffin, de Baba Sissi. Il faut être aussi fou que François Ruffin pour penser qu'un journal peut servir à quelque chose, et surtout de se lancer dans un journal avec une distribution nationale. Fakir est un journal d'Amiens créé par François, mais voilà qu'il a eu l'idée d'en faire une diffusion nationale avec sa bande de copains. Ça vaut une heure de soutien au moins, et une heure d'explication et de précision et de critique dont Ruffin et sa bande ont le secret. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Bassie. J'y suis. 11 01 56 40 37 37, et n'oubliez pas, à propos du Che, c'est toujours les perdants qui gagnent.
Bonjour, là-bas, si j'y suis, j'appelle pour soutenir Aung San Suu Kyi, que j'admire depuis longtemps. J'aimerais vraiment apporter ma voix de soutien pour elle. Faites passer.
Mesdames, messieurs, bonjour. Vendredi 15 mai, rendez-vous du repère de Bigné à partir de 7h30. Nous pouvons peut-être marcher sur la Lune, mais notre vie est bien sur Terre. Changer le monde, à nous de le faire. Parlons-en ensemble ce soir. Il y a des solutions. Jean-Marc pour le repère, renseignement au 06 79 65 49 42 ou contact @lemarronnier. Laissez vos messages. À très bientôt. Merci.
Bonjour, je m'appelle Chantal. Je voudrais enfin que l'on fasse le véritable papier et la véritable information concernant le devenir de l'enseigne La Poste et la Banque Postale. Savoir que l'enseigne et la Banque Postale vont devenir une société anonyme et savoir les scandaleuses manipulations du personnel qui s'y trouve. Donc, allez sur le site Forum des Postiers. Ce sera édifiant. À bientôt.
Le 12 mars, François Fillon et Rachida Dati ont signé un décret et un arrêté qui fixe un semblant de statut pour l'enquêteur social judiciaire et une rémunération revue à la baisse de 37 à 50% pour l'enquête sociale. Personne n'en parle.
C'est vrai qu'une baisse de rémunération n'est pas une perte d'emploi. Mais si demain on baissait votre rémunération de 37 à 50% sans concertation, vous en penseriez quoi? Une enquête sociale, c'est 40 heures de travail minimum. Faites le compte. 500 euros avant déduction des charges divisé par 40, c'est moins de 7 euros de l'heure. À Toulouse, nous sommes quasiment tous psychologues. Bac plus 5 pour moins de 7 euros de l'heure. Ce mépris pour notre travail, indispensable pour le juge aux affaires familiales dans les séparations parentales conflictuelles, indispensable surtout pour les enfants en cause dans ces séparations parentales, est purement scandaleux. On manifeste notre opposition à ces textes ce lundi 18 mai de 13 à 18h devant le TGI de Toulouse.
Salut les AMG de l'Isère, le rendez-vous du repère de là-bas si j'y suis au Sabot des Muses de Saint-Bernard-du-Touvet aura lieu ce soir, vendredi 15 à 18h30. Nous parlerons de Noam Chomsky, de la manipulation de l'opinion. Venez nombreux, on vous attend.
Salut, c'est là-bas si j'y suis, c'est Daniel Mermet avec François Ruffin et le journal de François Ruffin, Fakir et toute la bande. Alors moi je suis très intrigué, je me demande comment aujourd'hui on peut avoir l'idée de lancer un journal, parce que ça marche pas du tout, la presse, on le sait, on le répète à longueur de journée, la presse ça marche pas, ça marche plus. Et voilà que vous lancez un journal qui s'appelle Fakir. Ça dit quelque chose aux auditeurs fidèles de là-bas si j'y suis, sauf que Fakir est encore plus ambitieux qu'auparavant. C'était déjà un journal très très ambitieux. Mais là, c'est un journal qui devient un journal national. C'est-à-dire qu'après avoir labouré Amiens et les environs, la banlieue d'Amiens, cette fois-ci, c'est la France entière, les colonies françaises, qui vont être abreuvées des nouvelles du Fakir. Et à la tête de cette entreprise, on trouve François Ruffin. Mais là, il n'est pas seul. Là, il y a toute sa... Enfin, il y a une partie de la rédaction. Hein. Il y a 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, est-ce que tu peux répondre à la question pourquoi se lancer dans une aventure aussi désespérée?
Déjà, la première réponse est quand même que la commission Balladur et Nicolas Sarkozy ont décidé de dissoudre la Picardie. Donc, il fallait qu'on passe à la contre-attaque et que la Picardie aille envahir le reste de la France, voire l'Europe, puisque là, on va envahir jusqu'au Parlement européen. La deuxième réponse, c'est que, vous voyez, autour de la table, on est une équipe relativement jeune. À l'automne, on a vu un canard se lancer par Ciné, qui a ouvert la voie, puisque ce gars-là a quand même 80 ans, et il lance son canard. On s'est dit, on va pas attendre d'avoir 80 ans pour faire le journal qu'on a envie de faire. Parce que bon, ça fait 10 ans en Picardie que Fakir existe, ça fait 10 ans qu'on arrive à vendre correctement le journal sur la Picardie, ça fait 10 ans qu'on a envie de faire un canard de reportage, faire finalement du là-bas si j'y suis version papier, hein, c'est un peu ça, je m'excuse Daniel de te piquer ton concept, mais c'est un peu ça l'idée du journal, c'est de faire du là-bas si j'y suis version papier, et ça fait 10 ans qu'on a envie de le faire. Bon bah cette fois-ci, vu qu'on a les sous, vu qu'on a économisé suffisamment d'euros pour mettre 10 000 euros d'impression, on s'est dit bon bah allons-y, lançons l'aventure, attendons pas d'avoir 80 ans, quoi.
Alors, pour ce premier numéro, donc, un numéro culte, évidemment, un numéro extraordinaire, évidemment, le sujet, c'est l'Europe. Et ça, je suis pas sûr que ça nous intéresse beaucoup. Déjà, se lancer dans un journal, je trouve ça désespéré. Mais le sujet de l'Europe. Mais pourquoi avoir pris ce sujet, l'Europe? C'était bien en 2005, l'Europe, mais on s'est fait trompé par la suite. Le 29 mai 2005, on a dit non au traité, enfin nous, enfin les Français majoritairement ont dit non au traité de constitution européenne, on s'en souvient. Mais on nous a repassé le plat par derrière et maintenant, voilà, c'est passé quand même. Et est-ce que vraiment ça nous intéresse cette Europe?
Mais la première chose déjà, c'est que même si vous intéressez pas à l'Europe, l'Europe s'intéresse à vous, hein, parce que la stagnation des salaires, les impôts qui diminuent pour les riches, les 12 000 km d'autoroute, même si c'est décidé au niveau de l'Europe, ça s'installe à côté de chez vous. Là, il se développe, par exemple, une crise. On entend parler de crise, et c'est comme s'il y avait la crise et l'Europe, et que les deux n'avaient aucune connexion entre les deux. Alors que l'Union européenne, c'est l'une des institutions, parmi d'autres, hein, avec l'OMC, avec le FMI, mais qui a permis de donner la toute-puissance à la finance internationale, finalement. On se souvient que, dans le traité constitutionnel européen, il y avait cet article sur la libre circulation des capitaux. Il fallait garantir la libre circulation des capitaux, y compris avec les pays tiers. C'est cette politique-là qui a donné la toute-puissance à la finance. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet affrontement entre Marie-Hélène Bourlard, la déléguée CGT de CCE, et Bernard Arnault. Donc Marie-Hélène, qui allait être licenciée par le dirigeant de LVMH, qui intervenait en Assemblée Générale. Et là, lors de l'Assemblée Générale, la réponse de Bernard Arnault avait été, je vais le citer texto, « Est-ce que Givenchy doit être le seul sur le marché international à payer ses costumes le double du prix que payent ses concurrents ? Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'actionnaire de LVMH, puisqu'on se trouvait en Assemblée Générale. Alors moi, je ne suis pas responsable, si vous voulez, des problèmes qui sont structurels à l'évolution de cette mondialisation, de cette européanisation. Et c'est lui, c'est Bernard Arnault, qui détachait les syllabes. Et là, si vous voulez, il révélait le socle sur lequel était assis son pouvoir, c'était l'Europe. Donc il y a la nécessité d'aller voir, hein, comme moi je fais un peu Tintin à Bruxelles, d'aller voir à Bruxelles comment ça se passe, comment sont prises les décisions, quels sont le poids des lobbies, quel est le poids de la finance. Là, en pleine crise, Manuel Barroso a nommé un expert pour résoudre la crise, et cet expert qui a été nommé pour résoudre la crise, dont on a à peine entendu parler, mais il se nomme Jacques Delarosière. Il se trouve que ce Jacques Delarosière, il n'a pas été seulement directeur du FMI, c'est-à-dire au sommet de la finance internationale, il n'a pas été seulement au Crédit Lyonnais, au moment où il y a eu toutes les affaires du Crédit Lyonnais, il est aussi membre de ce qui s'appelle Eurofi. Donc je l'ai vu en direct, moi Jacques Delarosière, j'ai vu Barroso, je suis allé leur poser la question, mais comment ça se fait, au porte-parole de Barroso, comment ça se fait que vous choisissez Jacques Delarosière, qui est membre d'un lobby de la finance, un think tank opérationnel, ainsi que le site de l'association, dédié à l'intégration de l'Europe des services bancaires et financiers, dans lequel il y a AXA, BNP Paribas, Citigroup, Goldman Sachs, JP Morgan, Fortis, Natexis, Dexia. Et donc, c'est une personne qui est à la tête de ce lobby bancaire et financier que Manuel Barroso, applaudi par l'ensemble des socialistes européens, place pour résoudre la finance internationale. Et à ses côtés, on retrouve par exemple une ancienne directrice de Lehman Brothers. C'est-à-dire que finalement, ceux à qui on confie la résolution de la crise en Europe, on va à Bruxelles, et donc je suis allé poser la question au porte-parole, et on découvre que ce sont ceux qui l'ont produite, cette crise, qui passe par l'Europe, quoi.
Alors, il y a quand même là un petit florilège de phrases concernant l'Europe, une phrase d'Alain Madelin, par exemple, qui dit « L'Europe, c'est une assurance vie contre le socialisme ». De Denis Kessler, qui était, je le rappelle, le numéro 2 du MEDEF, qui dit « L'Europe est une machine à réformer la France malgré elle ». Alain Touraine, qui nous dit « En France, le mot libéralisme était imprononçable, alors on en a trouvé un autre, Europe. » Formidable, il y a tout un florilège. Tout un florilège de phrases comme ça. Formidable. Est-ce que dans les réunions que vous avez, les réunions de rédaction, c'est toujours Ruffin qui parle et vous la fermez autour, ou bien vous arrivez à en placer une de temps en temps? Mathieu, Cologan.
Ça dépend. En général, c'est lui qui commence et puis on le laisse pendant quelques minutes.
Courir devant et après vous le rattrapez. Mathieu Cologan, toi, tu es graphiste, tu es dessinateur. Ceux qui sont habitués un peu à une certaine presse, à Crimed, à Le Plan B, etc., connaissent tes dessins qui sont tout à fait, que j'aime beaucoup, pour ce qui me concerne. La maquette, pourquoi, comment, quelles sont les idées sur la maquette ?
Bah, comme on peut le voir, donc c'est une maquette particulièrement colorée. On s'est dit que puisqu'on payait la couleur, autant l'utiliser au maximum. Et on a essayé de faire quelque chose d'assez vivant et d'assez à l'image des articles, c'est-à-dire un truc qui ne se veut pas tristouille, qui n'est pas forcément sur quatre colonnes.
Mais là, tu t'es pas contenté et de faire les dessins et de faire la mise en page. T'as donné des articles, deux articles dans ce numéro, et un sur les symboles européens. Tu t'es intéressé comme graphiste aussi, comme plasticien, au drapeau européen.
Au drapeau, à l'hymne, à l'ensemble de ce qui représente l'Europe, ouais. Sur le drapeau européen, donc, qui est ce drapeau bleu avec 12 étoiles dessus, je dis ça pour ceux qui n'ont pas l'image, à travers les différents papiers qu'on a pu chercher sur les origines de l'Union européenne, c'est quelque chose de relativement confus. On avait des trucs sur le nombre d'États au moment où on a créé le drapeau, etc. Alors qu'en fait, en cherchant bien, on a l'auteur du drapeau, qui s'appelle Arsène Hertz, qui a expliqué à peu près comment il avait trouvé l'inspiration de ce drapeau. Autour d'une vingtaine de propositions, une lui avait sauté immédiatement à l'esprit, c'était l'idée des douze étoiles jaunes sur fond bleu, représentant la Vierge Marie. C'est, il cite un chant religieux qui parle de la Vierge Marie et de ses un signe grandiose est apparu dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Alors déjà, on a un drapeau qui par lui-même a déjà une légère connotation assez pesante. On a pas mal de figures des chrétiens progressistes ou des chrétiens moins progressistes qui ont eu des places très importantes dans la construction européenne. Mais pour finir, on a en plus un hymne européen qui en lui-même est d'une légèreté et d'une laïcité assez torride. Ça fait « Frères, au plus haut des cieux, doit habiter un Père aimé, tous les êtres se prosternent, pressens-tu le Créateur, monde, cherche-le au-dessus des cieux, d'étoiles, etc. etc. » Enfin, c'est assez long.
Ça nous élève, quoi, ça veut nous élever.
Ouais. C'est l'hymne, hein. Normalement, on devrait être debout, d'ailleurs, en ce moment.
Ouais.
Ça fait que chaque réunion européenne prend un petit côté « pardon breton », moins les bignoux, comme dans les origines chrétiennes de l'Union européenne.
On voit aussi des pages de publicité, carrément, hein, dans le Fakir consacré, donc ce premier numéro de Fakir consacré à l'Europe. Une autre Europe est impossible. Voter MEDEF, voter pour le MEDEF, c'est dire oui à l'Europe des banquiers, oui au dumping social, oui à la libéralisation des services, non à l'Europe sociale, non aux contraintes écologiques, pour plus de croissance, plus de subventions et plus de profits. Nous disons tout haut ce qu'ils feront tout bas.
C'est la seule liste, cette liste qui n'existe pas, hein, puisque c'est la liste pour une autre Europe est un policiste, c'est la seule liste qui n'a pas besoin d'être lue pour appliquer son programme. Puisque quand on va à Bruxelles, on découvre benoîtement à l'entrée, à 15 mètres de l'entrée du Parlement européen, qu'il y a une plaque, dont je peux citer la phrase, c'est écrit sur cette plaque, c'est par les discours, les débats et les votes que doivent se résoudre les grandes questions avec détermination, patience et dévouement. Ensuite, c'est signé par Nicole Fontaine, ancienne présidente du Parlement européen. Et au milieu, il y a un petit sigle, on s'approche, on regarde, on voit que c'est marqué CEAP. Donc CEAP, en dessous, c'est marqué Society of European Affairs Professionals. Et ensuite, c'est marqué Incorporating FELPA, Fédération Européenne du Lobbying et Public Affairs. On se renseigne un peu, hein, simplement en bidouillant sur Internet, pour voir ce que signifie ce CEAP. Qu'est-ce que c'est que ce CEAP ? Et bien, dans ce CEAP, il y a des dirigeants de Unilever, de McDonald's, de Carrefour, et ainsi de suite, qui siègent à l'intérieur de ce CEAP, qui a obtenu donc une plaque à 15 mètres de l'entrée du Parlement européen, co-signée par Nicole Fontaine, et le président suivant du Parlement européen assistait lui aussi à cette cérémonie qui unissait en grande pompe les lobbies et les parlementaires européens. C'est vous dire que là, c'était un mariage, un grand mariage, quoi. Donc moi, en Tintin, comme je vous disais, je suis allé un peu me renseigner sur mais comment ça se fait qu'ils ont réussi à installer cette plaque, et surtout comment nous, Fakir, on pourrait faire pour installer notre plaque, nous aussi, à 15 mètres du Parlement européen. Parce que c'est quand même assez surprenant. On n'imagine pas une plaque totale, totale remercie les parlementaires français à 15 ou devant le Sénat, par exemple. On n'imagine pas la même chose avec Fiat en Italie. Et pourtant, là, on est à Bruxelles, et ça paraît tout à fait normal que les lobbies soient installés comme ça et leur plaque officielle. Donc, on a interrogé un certain nombre de personnes, on a demandé, mais les syndicats, ils n'ont pas leur plaque ? Non, non, les syndicats n'ont pas leur plaque. Et les associations écologistes, elles n'ont pas leur plaque non plus. Moi, nous, Fakir, comment on pourrait faire pour avoir notre plaque ? Manifestement, ça a l'air d'être assez compliqué. Donc, on s'est fédéré avec, par exemple, des syndicats belges, on s'est fédéré avec des associations européennes, Fakir, et on va aller installer notre propre plaque. Donc, ça aura lieu le 22 mai, à 17h, devant le Parlement européen. Il y avait une plaque pour les lobbies. Il y aura désormais, je ne sais pas combien de temps elle tiendra, mais enfin, tous les auditeurs sont invités à venir à cette cérémonie. Il y aura désormais une plaque pour Fakir, pour les syndicats belges, pour des assises européennes, devant le Parlement à Bruxelles.
Ah là, le Parlement européen à Bruxelles, cette construction un peu kitsch en glace, en verre et en acier, qui est le Parlement européen.
Là-bas, si j'y suis, 17 mai 2005.
Donc cet arbre-là est donné par le Society of European Affairs Professionals, so the organization representing the lobbyists.
Fédération européenne du lobbying et des public affairs.
Ah, ils ont offert un petit arbre.
Sur une petite place, derrière le Parlement européen. Les questions importantes doivent être résolues par la décision et la discussion, avec la détermination, de la patience et de la persévérance. On dirait du
Raffarin,
non?
Ah oui, oui, oui. Mais c'est Raffarin, oui.
And basically, this organization, CEAP, this lobbyists lobby.
Oui, c'est en fait, c'est CEAP, c'est the Society for European Affairs Professionals, la société pour les professionnels des affaires européennes. Mot à mot, c'est le lobby des lobbies qui fait sa promo ici en plantant son arbre et en offrant gracieusement son arbre, et qui a été inauguré en présence de Nicole Fontaine.
Le 6 décembre 2001, avec Freddy Tillmans, le maire de Bruxelles.
Last year in March, the president of this organization sent an angry letter to the kind of secretariat of the European Parliament.
En mars 2004, le responsable de ce lobby des lobbies a écrit une lettre de mécontentement.
Because the public benches were overcrowded in the European Parliament.
Parce que les bancs publics étaient envahis dans le sein du Parlement européen, qu'il y avait plus de place.
Oh. They were not overcrowded by citizens who wanted to hear what was discussed in the European Parliament. It was just the increasing number of lobbyists which kind of completely outgrew the capacity of the seats and the headphones.
Et ces bancs publics étaient dans l'enceinte des institutions européennes. Ce n'étaient pas des citoyens européens qui venaient les occuper pour voir ce qui se passait, comment on décidait de leur destinée, mais c'était occupé, tous les bancs étaient occupés par des lobbyistes qui réquisitionnaient toute la place possible et tous les écouteurs de traduction.
C'est la lobbycratie.
Oui. So that is 7 lobbyists per member of the European Parliament.
C'est 7 lobbyistes par membre du Parlement élu.
Non, mais ça, c'est quelque chose qui est largement ignoré par l'opinion, au moins en France. C'est la présence des lobbies qui, à Bruxelles, ont pignon sur rue, comme ils ont pignon sur rue aux États-Unis, à Washington. Sauf que là, les Français l'ignorent. Je ne sais pas si nos voisins européens sont plus au courant de la présence et du poids énorme et sans contrepartie, ou avec très très peu de résistance de la part des élus européens, et qui ont effectivement un poids considérable, mais alors qu'ils disent, mais attendez, oui, il y a le lobby des grandes multinationales, de Total ou d'autres, ou de Monsanto, etc. Mais il y a aussi les lobbies des syndicats, ou des associations d'intérêt général ou local, etc. Sauf que quand on voit le poids des uns et des autres, et la puissance des uns et des autres, on voit que c'est un cheval et une alouette. Hein, c'est un cheval de multinationales ultralibérales et une alouette de, d'intérêt ou de défense des droits de l'homme ou de, d'intérêt de cette nature-là. Alors on continue donc avec le nouveau journal, Fakir National. Alors qui est derrière ça? Dassault, Lagardère?
Je pense que peu de journaux ont été lancés avec une aussi faible trésorerie, puisqu'on a simplement 10 000 euros. Les 10 000 euros, c'est les 10 000 euros qui ont été économisés par le fakir Picard en 10 années de bénévolat. Et donc, on a décidé de se lancer avec ça. Et on pense que ça tiendra, quoi.
Comment on fait pour distribuer un journal aujourd'hui? Comment ça marche?
Bon, d'abord, il y a des ventes à la criée. C'est le premier point. C'est quand même être un professionnel de la vente à la criée.
On n'avait plus le droit de crier dans les rues.
Ah, si, moi je me le permets encore.
Ah, d'accord.
Ensuite, il y a ce qu'on appelle des manifestations, mais qui peuvent aussi s'appeler des opérations commerciales pour Fakir, et où on vend les journaux dans les manifs. Il y a un certain nombre de méthodes traditionnelles comme ça, et ensuite, il y a les kiosques. Et là, les kiosques, évidemment, c'est une bataille énorme pour être présent en kiosque, pour être visible en kiosque. Les auditeurs qui vont aller, pour ce numéro-là, acheter Fakir dans un kiosque, ils peuvent avoir intérêt à se munir d'une pelle pour aller le chercher sous un certain nombre d'autres revues, voire peut-être à descendre à la cave de leur kiosquier. Donc, on a sur notre site internet fakirpresse.info, on peut rechercher le kiosquier le plus près de chez soi. C'est une vraie bataille à mener, mais c'est une bataille qui se mène dans la durée. C'est dans la durée qu'on s'installe dans les cœurs et les kiosques, quoi.
I don't like the common market.
Luttons pour le marché commun. Luttons pour le marché commun. Luttons.
I've never liked the common market.
Pour le pain, le sel et le vin. Les poules et les lapins. Pour le blé, pour le sarrasin. Le saumon, le thon, le colin. Le nylon, le coton.
Well, for my part, I do like the common market.
For my part, I detest the common market. I hate the common market.
Luttons pour le marché commun. Luttons pour le marché commun.
I loathe the common market.
Pour l'acier, le charbon, l'étain, les crédits, les emprunts, les avions, les camions, les trains, abaissant les prix de revient de tous ces trucs, tous ces machins.
Fakir revient, mais cette fois dans tous les kiosques, pas seulement à Amiens. À l'heure où on pleure sur le déclin de la presse, Fakir se lance à l'assaut de l'Hexagone et même à l'assaut de l'Europe tout entière dans ce premier numéro.
Luttons pour le marché commun. Luttons pour le marché commun. Pour le marché commun.
Alors, on va parler d'un papier sur un Français que les auditeurs adorent, c'est Jacques Delors, l'homme des firmes, le portrait de Jacques Delors, dans ce numéro donc de Fakir sur l'Europe. Vous en donnez un portrait qui est quand même pas entièrement flatteur. Hein.
Jacques Delors, si vous voulez, maintenant, quand il débarque dans une rédaction, on a l'impression qu'on lui a installé une moquette qui fait 15 cm d'épaisseur. Il n'est pas encore mort, il a déjà sa statue, et on sait que le jour où il mourra, il entrera directement au Panthéon, Jacques Delors. Enfin, c'est le sentiment qu'on a quand il est accueilli à l'intérieur des rédactions. Par hasard, faisant des recherches sur l'Europe, je suis tombé sur des vieux entretiens de Jacques Delors. Sur des vieux entretiens où il explique comment il a relancé, quand il arrivait en 1985, il explique comment il a relancé cette Union européenne. Et il dit ceci, par exemple, donc ces textos, « Les dirigeants de l'ERT ont été à l'avant-garde du soutien de mon idée. » Alors, il faut savoir ce qu'est l'ERT. L'ERT, c'est la European Round Table. Qu'est-ce que c'est que la European Round Table? C'est le MEDEF européen. Ça rassemble les 40 plus importants capitaines d'industrie, dont les dirigeants de Philips, Volvo, Renault et ainsi de suite. Et donc là, Jacques Delors vient dire à l'antenne, finalement, ceux qui m'ont aidé à construire cette Europe, c'est la European Roundtable. Et quand on déroule un certain nombre d'entretiens donnés par Jacques Delors, on découvre que, par exemple, en 1985, le président de Philips, qui est également président de la European Roundtable, a une idée qui s'appelle, il publie un rapport qui s'appelle Europe 1990, un agenda pour l'action, et où il propose de faire tomber les barrières commerciales et les frontières fiscales. Et qu'est-ce qui se passe quelques mois plus tard? Jacques Delors a une idée géniale où il propose de faire tomber les barrières commerciales. Si vous voyez, heureusement que la European Roundtable, donc le MEDEF européen, n'a pas mis un copyright sur ses idées, sinon Jacques Delors, il aurait un certain nombre de droits d'auteur à payer directement à ce lobby patronal. Je dis lobby patronal parce que lobby, ça fait un peu, ça passe entre deux portes où on chuchote et puis tout ça. Mais non, là, c'est public. Jacques Delors explique à plusieurs reprises, voilà, moi, si j'ai pu faire tout ça, c'est grâce à la table ronde des industriels, c'est grâce aux patrons qui m'ont continuellement soutenu. Alors on lui dit, mais l'Europe sociale, ah oui, l'Europe sociale, j'ai toujours regretté de ne pas pouvoir la construire. Vous voyez, ceci dit, on ne pouvait pas attendre que la European Roundtable, qui a publié des rapports sur à peu près tout, publie un rapport également sur le fait qu'il faille élever les salaires en Europe, élever la protection sociale et ainsi de suite.
Ils ont été à l'avant-garde du soutien de mon idée.
Jacques Delors.
Pour une raison simple, c'est qu'ils étaient l'infanterie de la guerre économique mondiale.
Antenne 2, 7 juillet 1993.
Donc ils voyaient bien que si l'on continuait à avoir des marchés fractionnés, l'absence de coopération entre les entreprises européennes, nous étions voués au déclin. Ils ne pouvaient pas gagner la partie. Donc le fait d'avoir le plus grand marché du monde, le plus prospère, était une base stratégique pour une économie qu'ils considéraient déjà comme mondiale à l'époque. Donc ce que j'ai fait en 84, c'est de rechercher un consensus par défaut avec les gouvernements. Ils refusaient tout sauf cette idée d'un grand marché et d'obtenir un consensus par enthousiasme des industriels.
Alors on pourrait se dire, Jacques Delors, ça n'a plus aucune importance. Maintenant, c'était 85-95, la période où il a présidé l'Union européenne. Ça n'a plus aucune importance. Jacques Delors appartient au passé. Maintenant, il doit jouer au Scrabble dans les maisons de retraite. On pourrait penser ça. Mais en même temps, je pense qu'il y a... Il continue d'y avoir un héritage, Jacques Delors. L'héritage, c'est qu'il dit, grâce à la European Roundtable, on a fait avancer l'Europe à 140 à l'heure. Faire avancer l'Europe à 140 à l'heure, je suis d'accord, mais c'est dans quelle direction? Et la direction qui a été fixée par Jacques Delors en 85-95, en accord avec les industriels, c'est encore la direction sur laquelle se trouve le traité constitutionnel européen, sur laquelle se trouve le traité de Lisbonne, et ainsi de suite. Finalement, on a continué à garder la même direction pour l'Europe. Ensuite, c'est un héritage pour le Parti Socialiste. Un Parti Socialiste qui, dans sa dernière déclaration de principe, déclarait que le PS agit dans l'Union européenne, qu'il a non seulement voulu, mais en partie conçu et fondé. Et là, on voit bien tout l'héritage européiste qui continue à être l'héritage du Parti Socialiste. Et troisième héritage, c'est évidemment la politique de rigueur. Parce qu'on a fait un retour aussi sur un autre élément. C'est qu'a été Jacques Delors avant d'être à la Commission européenne. Parce que quand j'ai vu ça, moi j'étais surpris de voir que Delors, il avait construit l'Europe main dans la main avec les patrons. Donc je me suis dit, tiens, qui c'était en 85 quand il est arrivé et tout ça? Et on a vu que à peine il est arrivé au ministère des Finances en 1981 dans l'équipe Mitterrand, qu'une semaine après, c'est celui qui vient prononcer le mot « rigueur » et qui vient dire du bien de Raymond Barre. Vous voyez, et il est très fier, quelques années plus tard, de dire qu'il a réussi à couler la vraie gauche, qu'il a réussi à imposer la rigueur, qu'il a réussi à imposer un certain nombre de réformes qui étaient nécessaires pour la finance et pour l'économie française, ainsi de suite. Et là encore, c'est le troisième héritage, c'est cet héritage social-libéral qui domine encore la gauche du gouvernement aujourd'hui en France.
Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. C'est sur les principes essentiels que l'on s'oppose. Pourquoi croyez-vous, messieurs, que l'on demande au gouvernement de retirer son projet d'union douanière? Parce qu'il constitue une atteinte à la souveraineté nationale? Non, pas du tout. Simplement parce qu'un autre projet est prêt.
C'est faux!
Un projet qui vous sera présenté par le prochain gouvernement.
Monsieur le Président, je vous demande la permission de nous interrompre.
Ah non! Et ce projet, je peux d'avance vous en dénoncer le principe. la constitution de trusts horizontaux et verticaux et de groupes de pression qui maintiendront sous leur contrôle non seulement les produits du travail, mais les travailleurs eux-mêmes. On ne vous demandera plus, messieurs, de soutenir un ministère, mais d'appuyer un gigantesque conseil d'administration.
La parole est à monsieur le président du conseil.
Si cette assemblée avait conscience de son rôle, elle repousserait cette Europe des maîtres de forge et des compagnies pétrolières. Cette Europe qui a l'étrange particularité de vouloir se situer au-delà des mers, c'est-à-dire partout, sauf en Europe. Car je les connais, moi, ces Européens à tête d'explorateur.
Monsieur le Président de l'Assemblée, je demande que les insinuations calomnieuses que le Président du Conseil vient de porter contre les élus du peuple ne soient pas publiées au journal officiel. Bravo.
J'attendais cette protestation. Et je ne suis pas surpris qu'elle vienne de vous, monsieur Jussieu. Vous êtes, je crois, conseil juridique des aciéries Crenair. Je ne vous le reproche pas.
Vous êtes trop bon.
Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche. Je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre. Et maintenant, permettez-moi de conclure. Vous allez faire avec les amis de M. Chalamont l'Europe de la fortune contre celle du travail, l'Europe de l'industrie lourde contre celle de la paix. Eh bien, cette Europe-là, vous la ferez sans moi, je vous laisse.
L'Europe du marché commun n'est pas celle que nous voulons. C'est en effet au sein du monde capitaliste que l'Europe a vu le jour. Et c'est une Europe du libre-échange qui s'est progressivement construite. L'opinion souhaitait l'Europe des peuples. On lui a donné l'Europe des marchands et des monopoles. Comment l'accepterait-elle avec satisfaction? Ça, c'est pas du François Ruffin, c'est pas du Besancenot, c'est pas du Mélenchon, c'est du Mitterrand, et ça date de 1977. Donc on voit que la question de l'Europe et de la construction européenne dans un sens du libre-échange, du marché, ou bien une Europe des peuples, une Europe sociale, cette question se pose depuis longtemps. Et finalement, votre mérite, c'est de reposer la question. Enfin, c'est quand même en grande partie d'y répondre.
Pour le PS, il y a un changement surprenant dans la manière de parler de l'Europe. C'est qu'au départ, avant d'arriver au pouvoir, Le Parti Socialiste parle de leur Europe. Et c'est l'Europe des capitalistes, c'est l'Europe des firmes, c'est l'Europe de ce qu'on appelle à l'époque les monopoles. Et puis à partir de 83, on va dire l'Europe, tout court. Mais on l'a déjà acceptée. Et maintenant, c'est devenu notre Europe. Donc là, elle est pleinement acceptée telle qu'elle est, quoi. C'est un changement lexical qui peut être noté.
Alors, je viens à l'Europe sociale. Alors, l'Europe sociale, Henri Lucien donne un papier qui est vachement intéressant quand même, parce que dans chacun des pays qui constituent cette Europe, il est allé voir au plan social, au plan des droits sociaux, des choses qui pourraient être partagées, échangées et généralisées. On a, en Autriche, l'aide aux familles qui est particulièrement généreuse, on a des avantages à droite et à gauche. Alors pourquoi est-ce qu'on ne généralise pas tout ça ?
Si Fakir devait faire une liste, ce serait peut-être le programme, finalement, proposer de généraliser tous ces avantages, puisqu'on est parti du constat, en fait, que habituellement, les harmonisations sociales, quand elles existent, elles se font plutôt par le bas. Par exemple, travailler toujours plus âgé, enfin, c'est écrit noir sur blanc dans les rapports qu'on peut lire, faits par les experts européens, travailler toujours plus âgé, puis dans les pratiques aussi, c'est ce qu'on voit. Donc là, on a voulu faire quelque chose d'optimiste, et bon, on n'est pas allé sur place à chaque fois, malheureusement.
On n'a pas les moyens de là-bas, si j'y suis.
On n'a pas encore les moyens.
Bah, c'est bien ça, oui, les missions des riches.
Mais donc, l'objectif, ce serait de prendre un peu dans chaque endroit. Par exemple, pour un chômeur, ce serait d'avoir l'indemnité chômage du Danemark, puisque ça va jusqu'à 90% du salaire de référence, et la durée d'indemnisation des chômeurs qui existe en Belgique, qui est en général illimitée. Par exemple, à Malte aussi, on s'aperçoit que tous les soins sont gratuits à Malte. Ah oui. Et c'est peut-être pour ça qu'une jeune fille qui naît à Malte vit 69,2 ans en bonne santé.
Sa meilleure espérance de vie en bonne santé d'Europe. Mais quand même, l'endroit, tu peux le dire, où on est le mieux, c'est quand même à Bruxelles. Finalement, c'est quand même les avantages d'une certaine catégorie de Bruxellois qu'il faudrait généraliser à toute l'Europe.
Certains Bruxellois sont plutôt favorisés, par exemple les fonctionnaires de la Commission qui ont une allocation pour enfants à charge, ou les députés qui, après les prochaines élections, donc au mois de juin, recevront tous environ 7 000 euros par mois.
Tu ne te présentes pas, toi, aux élections ? Non. Tu ne te présentes pas encore.
Non, non. Je fais partie de ces gens qui auraient été beaucoup plus motivés, qui auraient battu les estrades, qui seraient allés partout en région pour animer des débats, qui se seraient non pas présentés personnellement, mais qui auraient été aux côtés des orateurs et des militants et des candidats, si jamais il y avait eu un vrai front de gauche qui avait uni le Parti communiste, le NPA et le Parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'on fait partie de ces gens qui sont un peu tristes de ce que a donné politiquement le 29 mai. On pouvait espérer que sur ces élections européennes, il y a un vrai front de gauche qui rassemble tout ça et qui donne une dynamique. Qui donne une dynamique pour deux choses. D'abord, ça aurait donné de l'allant, on pouvait espérer, au mouvement social, premièrement. Et ensuite, si jamais il avait pu battre le Parti Socialiste à gauche, rompre pour une fois avec l'hégémonie du Parti Socialiste qui, là, enfin, il risque de ne pas être entamé sur cette élection, quoi.
Les sangliers sont lâchés. Les petits patrons font les grandes rivières de diamants. Les roses de l'Europe sont le festin de Satan. Je répète, les roses de l'Europe sont le festin de Satan.
Nous travaillons actuellement pour l'Europe. Nous travaillons actuellement pour l'Europe, voire pour le monde. Nous travaillons actuellement pour l'Europe.
On est passé de tes arcanes, passé de tes arcanes, passé. On est passé de tes arcanes, passé au charme technocrate. Alors l'Europe. Alors, Bruxelles, Schengen, Strasbourg, Maastricht, PIB, CEE, Euratom, OCD, Epigat. Protégez-nous, marché de cet ami commun d'un monde si petit. Euro, monnaie unique, Nasdaq et CAC 40, orgiaque, idyllique, fête de la poésie. Soutenez la culture, produisez du spectacle et de l'entertainment. Comme on dit chez nos frères d'outre-Atlantique et TOC. Anciens européens, nouveaux maîtres du monde, pendant que le dragon asiatique rêve, fait ses étirements, il est beau et puissant, crache du feu gentiment. En veux-tu, en voilà des écoles de la performance. Et voilà des patrons créateurs du Global Business Dialogue on Electronic Commerce pour s'asseoir en gloussant sur toutes les exceptions, à commencer par ce truc machin culturel. Histoire de producteur et de consommateur, du producteur au consommateur, du producteur au consommateur et des intermédiaires à plus savoir qu'en foutre. Toute ton âme s'est usée sur ce chemin sans fin et sur ce va-et-vient. Viens, on y va nous aussi, profitez, pas de raison, après tout ça ira. On en aura pour tout le monde, il y en aura pour tout le monde, on l'a dit, pour tout le monde, pour tout le monde, pour tout le monde, on le cul.
Nous travaillons actuellement pour l'Europe.
Ce journal n'est lié à aucun parti, aucun syndicat, aucune institution. Il est fâché avec tout le monde, ou presque. Ce journal, c'est Fakir, le journal de François Ruffin, qui jusque-là limitait ses méfaits à Amiens et un petit peu autour. Mais dorénavant, c'est dans toute la France qu'on peut lire Fakir, et même dans toute l'Europe, puisque ce premier numéro de Fakir national s'en prend à l'Europe avec plein de reportages, d'enquêtes, de mauvais esprits et toute une équipe. Ça, c'est le numéro sur l'Europe. Le prochain, ce sera ?
Les banques. Les prochains, c'est en gros comment l'écureuil est devenu fou, comment une petite banque de prévoyance, une société philanthropique comme la Caisse d'Épargne a pu virer sa cutie à 2000%, là, on peut dire, et en devenir une banque d'investissement qui va complètement se planter aux États-Unis sur les prime, sur des produits dérivés, sur des choses qu'on ne maîtrise absolument pas et que eux-mêmes ne maîtrisaient absolument pas. Donc c'est.
Est-ce que vous avez le sentiment de faire un autre journalisme ?
En tout cas, j'ai le sentiment qu'on fait un journalisme qui est devenu rare. C'est-à-dire le journalisme de reportage, d'enquête, qui va rencontrer les gens. Encore, ça peut exister quand il s'agit d'aller faire des reportages en Afghanistan, mais quand il s'agit d'aller faire du reportage en France, c'est quelque chose qui est devenu une denrée beaucoup plus rare. Je veux dire, si on reprend cette histoire de plaque devant le Parlement européen qui unit les lobbies et les parlementaires, il est quand même incroyable de penser que devant cette plaque sont passés, je dirais pas des centaines, je dirais pas des milliers, mais je pense des dizaines de milliers de journalistes sont passés devant cette plaque qui unit les lobbies et les parlementaires à Bruxelles. Comment ça se fait que parmi ces dizaines de milliers de journalistes, il y en a un par un qui s'est dit « Mais c'est quand même incroyable, cette plaque. Mais qu'est-ce que ça veut dire ?» Et là, il n'y en a pas eu un seul. Ben voilà, on est Tintin, quoi. Je dis là-bas, si j'y suis, version papier, on découvre un truc et puis on va poser notre question. Des questions, Nicole Fontaine, voilà, elle était gênée, mais elle a répondu à mes questions. Le responsable des lobbies, ben on va les gêner aussi. Il ne faut pas qu'on se la raconte comme quoi on serait le meilleur journal, nouveau, etc. On voit bien tous les défauts qu'on a. Mais ce qui est extraordinaire, c'est quand même le conformisme des médias en face. Par exemple, bon, vous connaissez Pascal Amy, vous connaissez Jacques Attali, vous connaissez Alain Minc, tous ces grands économistes. Il y a un nom que vous ne connaissez peut-être pas, c'est le nom de Maurice Allais. Maurice Allais, c'est pourtant le seul prix Nobel français d'économie. Mais c'est un prix Nobel qui s'est positionné contre cette Europe libérale, qui s'est positionné pour un protectionnisme européen. Et du coup, ben, bien que ça soit le seul prix Nobel d'économie français, il est interdit de médias. Et le seul journal dans lequel vous trouverez une interview de Maurice Allais, c'est Fakir. Enfin, là, on voit la puissance de la censure en face quand le seul média qui interroge le seul prix Nobel d'économie français, c'est un journal aussi marginal que Fakir.
Oui, mais enfin, il y a quand même en France, il n'y a pas que Fakir, il y a un tas de petits journaux qui localement se défendent, se battent pour essayer de faire du journalisme de contre-pouvoir, tout simple, un journalisme très simple. Fakir, c'était simplement enquêter sur ce qui se passe à Amiens, oui. Sur ce qui se passe dans la mairie, sur ce qui se passe dans les journaux, sur ce qui se passe tout simplement, qui parfois agace beaucoup les pouvoirs locaux, et ça, on ignore un peu hein, cette volonté indestructible de la part de certains de faire quand même ce métier et de le faire normalement, c'est-à-dire en faire un contre-pouvoir.
On l'a fait pendant 10 ans à Amiens.
Monsieur Roger Mézin, vous avez été une des premières cibles de Fakir, le journal Fakir.
Là-bas, si j'y suis, Amiens, 29 avril 2004.
Ça vous a pas plu et vous avez attaqué en justice. Vous avez tenté un procès que vous avez perdu en deuxième instance. Comment vous avez pris ça ?
Le président m'a demandé pourquoi je faisais un procès. Et je lui ai dit parce que je me fais une certaine idée de la presse.
Roger Mézin, premier adjoint au maire d'Amiens.
C'est-à-dire que dans mon milieu, on a peur d'attaquer en diffamation. Contre la presse, on a toujours tort.
Même avec un petit journal comme ça, de rien du tout ?
Ça ne change rien, puisque c'est un petit journal. Mais vous comprenez bien que quand vous êtes connu, tout le monde a lu ce petit journal. Il se le passe. Rapidement, t'as vu, Mézin est mis en cause. Bon, et ceci altère la démocratie qui est un équilibre.
Monsieur Mézin, vous savez que 160 000 francs ont été réclamés.
Oui.
C'est de nature à couler le journal.
Et alors, qu'est-ce qu'un journal comme ça apporte à la vie publique ? Rien. Il lui nuit. Il fait paraître tous les hommes importants qui débattent de choses difficiles, comme des margoulins, des plaisantins, qui ne songent qu'à s'en mettre plein les poches, au pire, ou au mieux, qui s'en foutent des affaires publiques, qui gèrent ça n'importe comment.
Mais est-ce que pour autant, il faut flinguer un petit journal comme ça qui porte la contradiction ?
Sans hésitation. C'est-à-dire...
Sans hésitation, oui.
Sans hésitation. Il faut faire disparaître, de mon point de vue, tout ce journalisme de diffamation qui n'attaque que les personnes. Pour moi, il y a des jeunes abrutis qui se jouent aux journalistes.
Donc vous considérez que ce n'est pas un vrai journaliste ?
Ah, dans ce cas-là, pas du tout. Je dis, il a du talent, son talent, il l'a mis au service du mal. Et tous ceux qui mettent leur talent au service du mal, pour moi, ne doivent pas exercer une profession.
Il faut savoir que faire du contre-pouvoir local, c'est une des choses les plus difficiles qui soit, parce que les gens que vous avez, sur qui vous avez tiré, entre guillemets, dans votre canard, vous les croisez le lendemain matin ou le surlendemain
à la boucherie
ou à la boulangerie du coin. Tandis que, bon, c'est vrai que j'ai peu de risque de croiser Jacques Delors ou Nicole Fontaine à la boulangerie du coin. Donc déjà, c'est peut-être pour moi un métier moins à risque. Ensuite, au bout de 10 ans, on peut avoir l'envie de passer à autre chose. Et le troisième point, c'est quand même qu'après 10 ans de Fakir à Amiens, 9 ans plus exactement, on a réussi à déloger Gilles de Robien. Gilles de Robien nous avait dit, allez exercer votre métier ailleurs. Donc c'était soit lui, soit nous. On a fini par y arriver. Maintenant qu'on en a fini avec Gilles de Robien, bah, il faut qu'on passe à Nicolas Sarkozy, il faut qu'on passe à José Manuel Barroso, et ainsi de suite. Quoi.
Merci à Delphine, Aline, Laurence, Daniel, Nicolas, Chef et les autres. À lire aussi « L'Europe sociale n'aura pas lieu » de François Denord et Antoine Schwartz aux éditions Raison d'agir. Et puis sur le site www.fakirpresse.info, vous trouverez les kiosques qui vendent Fakir près de chez vous. Toutes ces informations sont bien sûr disponibles sur les sites de France Inter à la rubrique « Émission ». Là-bas, si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Cédric Lalanne et Chérif Bitalmadji. Réalisation Koy Nguyen et Raphaël Moutarde. Assistante Charlotte Perry, le répondeur Agnès Lebot. D'ailleurs, le numéro du répondeur de Là-bas si j'y suis, 01 56 40 37 37.